France Info.
Les informés de l'écho, comme tous les samedis à 7h sur rendez-vous de décryptage de l'actualité économique et sociale avec vous, bien sûr, Emmanuel Cuny. Bonjour.
Bonjour à tous.
Nos informés de l'écho ce matin, Nathalie Chusseau, économiste, professeure à l'Université de Lille, et Christian Deboissieu, vice-président du Cercle des économistes. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de cette idée d'un salaire décent. Il est question de pouvoir d'achat, de rémunération des salariés français. Avec cette question, qu'est-ce que c'est ? D'abord, Emmanuel Cuny, on rappelle que c'est le groupe Michelin qui l'a annoncé.
Oui, mise en place du salaire décent et puis d'un socle social, socle de protection universelle pour ces quelque 132 000 salariés dans le monde. Le message sous-jacent, en gros, c'est le SMIC n'est pas un salaire décent. Alors, effet d'annonce assuré, bien sûr, mais qu'en est-il sur le fond et la forme ? La notion de salaire décent est définie dans le pacte social des Nations Unies. Il doit permettre à chaque salarié de subvenir aux besoins essentiels d'une famille de 4 personnes, alimentation, transport, éducation, frais de santé, mais également de constituer une épargne de précaution. Alors tout cela est bien dit, mais divise déjà un petit peu le patronat. On l'a entendu cette semaine, notamment vendredi sur France Info. Je vous propose justement cette petite réaction. On va d'abord écouter le patron de Michelin, Florent Ménégaud, qui explique sa position, et Michel-Édouard Leclerc qui lui répond dans la foulée.
Nous proposons un projet d'entreprise à toutes les personnes qui nous rejoignent, qui vont consacrer du temps, s'engager fortement pour l'entreprise. Il est normal que les niveaux de rémunération les plus faibles soient à un niveau qui permette aux personnes de s'engager totalement.
Je ne pense pas qu'on puisse généraliser parce qu'il ne parle que de salaire, il ne parle pas de dividendes, il ne parle pas du reste. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'effets de présentation dans la réponse. Il ne faut pas être focus, quoi, parce qu'il y a pas mal de gens qui mettent pas les mêmes choses dans les mots et qui ont des effets d'affichage qui ne correspondent pas à la vraie justice sociale.
Voilà donc la réaction du patron des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, réaction au patron de Michelin, Florent Ménégaud, sur ce salaire décent. Alors que se cache-t-il derrière ce principe ? Et puis, s'il est si bien, pourquoi ne l'a-t-on appliqué avant ? Parce que les Nations Unies se sont penchées sur la question depuis quelques années déjà.
Alors, salaire décent que touchait déjà presque 95% des salariés du groupe Michelin, il y a cet effet d'annonce. Mais tout de même, ça replace dans l'actualité cette idée d'un salaire décent, Nathalie Chusseau. Je vous repose exactement la question. Question que nous pose Emmanuel. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler davantage avant ?
Alors d'abord, ça n'est pas nouveau, hein. Emmanuel l'a dit, mais ça, c'est une notion qui a été avancée dès le début du XXe siècle avec la création de l'Organisation internationale du travail. Par ailleurs, ça existe ailleurs. Le Royaume-Uni a mis en place ce salaire décent en 2016 et il y a une fondation qui regroupe des entreprises qui s'affichent comme appliquant ce salaire décent. Ça représente 15 000 entreprises britanniques. Et en France, L'Oréal, Deloitte, Schneider appliquent ceci sans forcément d'ailleurs en faire un effet d'annonce. Et puis dernière chose, c'est un élément qui est dans la tradition, je dirais aussi sociale, de ce groupe Michelin, qui est vraiment. Alors ça recoupe pas réellement une notion économique en tant que telle, mais l'idée qu'il y a derrière, c'est de fidéliser son personnel, sa main-d'œuvre, surtout dans un contexte où c'est compliqué de recruter, etc. Et puis ça permet d'attirer les talents et de les fidéliser. Alors, ça n'est pas nouveau, on peut faire un salaire décent, mais souvent les entreprises, elles font d'ailleurs ce que le PDG de Michelin a annoncé, c'est-à-dire une meilleure complémentaire santé, des congés paternité plus longs, maternité, etc. Ça, les entreprises le font assez habituellement. Ce qui est un peu pas nouveau, mais qu'on peut saluer, parce qu'évidemment, le groupe Michelin n'est pas du tout obligé de faire cela, comme les autres entreprises qui le font, c'est qu'effectivement, on dit, on va calculer ce salaire décent. Alors, c'est pas seulement que pour les personnes, les couples avec deux enfants. Il est aussi calculé pour un célibataire sans enfants. C'est à peu près à plus de 1600 euros net. Il y a différents types de calculs. Il est différent à Paris et ailleurs. De même qu'en Grande-Bretagne, il est différent à Londres et ailleurs. Et donc, effectivement, l'idée, c'est qu'on va fidéliser et on va attirer les talents. Et effectivement, on va les rémunérer de manière conséquente en pensant qu'ils vont avoir aussi une productivité meilleure parce qu'ils vont mieux se sentir dans l'entreprise. Ils auront moins de problèmes à régler, à penser parce qu'ils auront les moyens suffisants de vivre correctement.
Et ça d'ailleurs c'était tout à fait assumé par le patron de Michelin invité de France Info cette semaine. Pareil Christian Deboissieu, on a l'impression qu'on découvre à l'aune de cette actualité, pas quand on est économiste comme vous, mais le grand public qui a ce salaire décent et tout le monde se dit j'ai envie d'y être évidemment, si je suis au SMIC aujourd'hui je veux un salaire décent.
C'est le Père Noël en avril.
d'une certaine façon, et je dirais heureux les salariés de Michelin, qui sont pas tout à fait représentatifs de ce qui se passe dans l'ensemble de la population
française. Parce qu'en France, ils sont presque déjà tous à ce salaire.
Il y a 3% de smicards chez Michelin. Mmh. En France, il y en a 10%. Donc, vous voyez, et je dirais, tant mieux pour les salariés de Michelin, mais je pense que ça n'est pas généralisable, parce que ça dépend évidemment de la situation de l'entreprise, du secteur, des bénéfices qu'elle fait. Il y a derrière tout ça un problème important, et qu'on aborde depuis des années de manière un peu maladroite, qui est le problème du partage de la valeur ajoutée entre les profits et les salaires.
C'est pour ça que c'est pas forcément le Père Noël, d'ailleurs. C'est pas c'est
non,
des
mais
cadeaux. Bien sûr, j'ai compris
vous avez compris
mais,
mon image.
Mais ça replace tout à fait justement cet enjeu de la rémunération décente, évidemment méritée dans le partage de la valeur.
Voilà, c'est le partage de la valeur. C'est aussi quand même... ça rouvre un débat sur le SMIC, parce que si on applique cette formule du président Michelin dans la région parisienne avec les chiffres qu'il donne, ça veut dire que personne ne serait en dessous de deux fois le SMIC, à peu près. Bon, et or... je veux dire, le SMIC, il a suivi, heureusement, il a suivi l'inflation, il a été indexé. Il n'y a pas eu de perte de pouvoir d'achat sur le SMIC. On n'a pas donné de coup de pouce pour la raison suivante, au-delà de l'inflation, c'est que si vous augmentez trop le SMIC, vous risquez de détruire des emplois. Et donc, il peut y avoir un arbitrage entre le niveau du SMIC et l'emploi. Et puis, j'ajoute que le débat, c'est pas uniquement sur le SMIC, c'est aussi les gens qui sont très proches du SMIC. Ce débat, il a été ouvert par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Général, en parlant, j'aime pas beaucoup le terme de smicardisation.
Ouais. Je veux désmicardiser la...
C'est-à-dire qu'avec l'indexation nécessaire du SMIC sur l'inflation, les rémunérations qui sont juste au-dessus n'ont pas tellement augmenté, et donc vous avez ce débat-là. Et je termine en disant que... voilà, je veux dire, moi j'aimerais bien aussi que, Emmanuel l'a dit tout à l'heure en entrée, qu'on pose le problème de la décence ou de l'indécence des très hautes rémunérations.
On va y revenir, Christian de Boissieu. Emmanuel Cuny, est-ce que un tel salaire décent est applicable partout, par toutes les entreprises?
À la base, quand on voit les chiffres, on va entrer dans le détail qu'évoquait Christian de Boissieu, on voit mal comment une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, a fortiori encore moins un artisan ou une PME peut appliquer cela. À la base, petit rappel, le salaire décent tel que l'envisage Michelin représente concrètement 39 600 euros par an pour un salaire brut à Paris, 25 300 euros brut à Clermont-Ferrand, où se situe donc en région le siège du groupe. Et à titre de comparaison, le SMIC, le salaire minimum, eh bien, s'élève aujourd'hui à 21 203 euros bruts par an. Donc les syndicats disent, oui, ça part d'un bon principe ce que fait Michelin, mais tout ça reste à relativiser parce qu'il y a autant de cas dans une entreprise, des individus, des travailleurs au forfait, etc. Donc attention, n'allons pas trop vite en besogne. Parmi les artisans et les PME, qui peut se permettre ça? C'est la grande question.
Les informés de l'Écho, Emmanuel Cuny, Jules Dequisse.
Nos informés de l'Écho aujourd'hui, Nathalie Fusseau, économiste, professeur à l'université de Lille, et Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, toujours à vos côtés. Emmanuel Cuny, on parle donc du salaire décent, cette annonce, Michelin qui veut le généraliser à tous ses salariés. C'est un salaire souvent plus élevé que le SMIC, avec l'idée aussi d'avoir par exemple une épargne complémentaire, bref, d'assurer une forme de confort économique avec différenciation en fonction de là où on habite. Puisqu'il y a des... Est-ce que ça veut dire, par exemple, Nathalie Fusseau, quand on veut l'appliquer, que si on déménage, on est à Paris, on va à Clermont-Ferrand, par exemple, on a un salaire qui baisse, par exemple?
Bah oui, c'est l'idée. C'est absolument ça, puisque...
Ça marche dans les deux sens.
Ça marche dans les deux sens. Et une des raisons majeures, c'est que vous savez bien que le coût de la vie à Paris est bien plus élevé, notamment le coût du logement, etc. Donc forcément, c'est comme ça qu'il est calculé. Hein. Si vous voulez, en fait, il dépend du niveau de vie, effectivement, au niveau de la région. Donc si vous déménagez de Paris à Clermont, bah vous verrez, votre salaire descend. Diminuer.
Et pourquoi une réflexion qui est valable pour les entreprises privées ne pourrait pas l'être pour le public, pour les décisions politiques, par exemple, une régionalisation du SMIC? Est-ce que c'est un débat qui peut avoir lieu d'être ou pas du tout? Que le niveau du SMIC soit pas le même en fonction des régions.
Il y avait, au départ, il y avait une sectorialisation du salaire minimum quand on l'a créé en 1950.
En fonction des branches.
Le SMIG, garantie, G pour garantie, c'était différent selon les secteurs. Alors simplement, si vous croisez secteur et région, vous allez vers un système très compliqué. J'ajoute que je ne crois pas tellement, d'ailleurs, à la possibilité d'accepter une baisse considérable de son salaire. Il y a des effets de cliquet. C'est-à-dire que si vous passez de Paris à Clermont, voilà. Je ne crois pas, du point de vue social, je crois
non, mais
pas...
C'est le principe.
Voilà. Ils peuvent négocier.
Non, mais c'est vrai que ça pose plein de questions très concrètes, et puis surtout, ça fait réfléchir sur la situation actuelle du salariat, du rôle de l'entreprise. Avec cette question qui peut se poser aussi peut-être, Emmanuel Cuny, est-ce un chef d'entreprise de se soucier du confort de ses salariés? On voit que voilà, le patron de Michelin l'a beaucoup dit.
C'est le concept de l'entreprise paternaliste en tant que telle, pas forcément entreprise providence, parce que quand on dit providence, il y a quand même le rôle de l'État, on va y revenir. Mais l'entreprise paternaliste, c'est quoi? C'est donner une assurance sociale à ses salariés, également attirer avec de bonnes conditions, Nathalie Chusseau l'évoquait tout à l'heure, respecter, faire respecter la hiérarchie aussi, quand on a un chef qui est respectueux des sous-chefs et des salariés, on a plus confiance en lui, ça inspire beaucoup de choses, et puis ça permet d'attirer aussi dans le contexte actuel de tension sur le marché du travail, si vous êtes ingénieur, compétence égale, vous avez une entreprise qui vous offre plus, moi je vais plus travailler aujourd'hui chez Michelin que chez d'autres entreprises que je ne citerai pas parce que je connais pas les titres, mais c'est vraiment un facteur attractif très important. Alors aujourd'hui, l'entreprise paternaliste, évidemment, c'est vieux jeu, vous êtes OK boomer si vous l'évoquez, mais il y a quand même beaucoup de mérite à l'entreprise paternaliste aujourd'hui.
Mais alors plus largement, par exemple, Marie-Lise Léon, la secrétaire générale de la CFDT, expliquait hier que c'était aux entreprises de se mobiliser, notamment en vue des JO, pour offrir toutes les bonnes conditions de travail et des compensations financières aux employés concernés. Ça pose le rôle de l'entreprise. Est-ce que cette affaire de salaire décent, c'est un peu un coup de pied aux entreprises? Faites-en plus pour vos salariés si vous le pouvez.
Je ne sais pas à qui c'est un coup de pied ou pour qui c'est un coup de pied. Ça ouvre des tas de débats. On l'a dit à propos du niveau du SMIC, de la trappe à bas salaire. Ça pose quand même le problème de la réduction des inégalités. Bon, parce que les inégalités ont été accrues un peu partout, dans tous les pays, par le phénomène de mondialisation. Je suis pas en train de rejeter, loin de là, la mondialisation. Je dis simplement, il y a des conséquences. Ça pose le problème de la politique fiscale qui est derrière, et de la redistribution, et qui est évidemment, qui n'était pas le sujet abordé ici. Je dis simplement que c'est très important le salaire, mais que les débats récents ont montré qu'il y a deux autres sujets qui sont complémentaires. La question de l'accès à des formations qui permettent la mobilité. Et puis d'autre part, alors là, j'ai pas entendu le patron de Michelin parler, la généralisation des formules de participation et d'intéressement. Sujet dont on parle depuis quelques années à propos du débat sur les salaires, en disant il y a des boîtes qui aussi peuvent verser des compléments. Alors il y a la prime Macron, il y a l'intéressement, la participation. Moi j'aimerais bien qu'on se centre un peu sur la question accélérer l'extension des formules de participation et d'intéressement, y compris vers les PME.
Il y a aussi une réflexion sur le temps de travail, des négociations sur le point d'aboutir, sur le compte épargne-temps universel, que les jours qu'on épargne dans une entreprise nous suivent dans une autre entreprise. Nathalie Chusseau, ça montre que le salaire n'est pas forcément appréhendé uniquement comme une notion de coût du travail, que ça dépasse tout cela.
Oui, bien sûr. Ça rejoint un peu ce qu'on appelle en économie la théorie du salaire d'efficience. Mais je reviens sur ce que disait Christian. Effectivement, ça montre deux choses. D'abord, qu'une grande entreprise est capable de payer très correctement ses salariés, bien au-delà du SMIC, et pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc, d'autres grandes entreprises peuvent le faire. Voilà. Ensuite, ça a plein d'avantages et l'idée derrière, c'est que la productivité des salariés augmentera. Deuxième remarque, la question de l'intéressement, de la participation, ça fait partie du sujet. Le PDG de Michelin l'a dit, en fait, il y a aussi une partie variable en plus de ce salaire décent en fonction d'un certain nombre d'objectifs. Donc ça devrait être généralisé. Enfin, c'est une volonté du gouvernement, on n'a pas vu beaucoup d'évolution là-dessus. Et puis la dernière chose qui est importante, c'est que c'est tous les salariés du groupe, c'est-à-dire les salariés qui sont situés à l'étranger, et normalement ce sont tous les fournisseurs, c'est-à-dire vos sous-traitants. Et là, ça devient compliqué parce que vous pouvez avoir des sous-traitants qui ont des sous-traitants qui ont des sous-traitants, et ça c'est très intéressant, ça rejoint aussi ce que disait Christian sur les problèmes de mondialisation, d'inégalité, etc.
Et Emmanuel Cuny, est-ce qu'il faut comprendre que l'entreprise peut jouer un rôle complémentaire avec un État-providence, une entreprise-providence?
C'est le grand débat du moment, notamment à l'heure des déficits publics importants, on est en train de voir, est-ce que les pouvoirs publics ne vont pas pousser les entreprises à justement aller plus dans ce paternalisme pour prendre en charge plus la protection sociale. Regardez Michelin, il le dit clairement, nous on fait beaucoup sur le plan de la santé à l'interne, on accompagne beaucoup sur les mutuelles, etc.
Les salariés. On a entendu l'État encourager les entreprises, la prime Macron, à verser des primes.
Oui, donc est-ce que les entreprises privées, peut-être publics, vont prendre le relais de l'État dans les missions régaliennes, enfin plutôt les missions citoyennes en tant que telles, et de Providence, l'État-Providence en tant que tel, est-il en train de signer sa mort? Certainement pas, mais là, on est en train de s'enfoncer dans une petite brèche.
Un mot très court.
très court. Je voudrais qu'il y ait un peu plus de raison sur la question des très hautes rémunérations, parce que le débat n'est pas indépendant de ce dont on vient de parler.
Le PDG de Michelin a plafonné son salaire.
Très bien, bonne précision. Nathalie Chussot, bon, ça fait l'objet d'un débat parlementaire, entre autres une proposition de loi de la France Insoumise en ce moment. Merci beaucoup à nos informés, Christian Deboissieu, Nathalie Chussot, et merci à vous, Emmanuel Cuny, les informés de l'Écho tous les samedis sur France Info.